Donc, je ne vais pas parler des fameux climato-sceptiques français, ni de la dénégation du changement climatique. Je vais aborder d'autres débats et des accords à propos du changement climatique qui ont été émis par des scientifiques assez rarement étudiés à ma connaissance. Et je vais tenter d'explorer l'hypothèse suivante. Est-ce qu'une partie des controverses, des désaccords ou de la méfiance vis-à-vis du changement climatique, je ne vais pas m'étendre sur le choix des mots. Hein. Il y a des gens effectivement qui sont spécialistes sur ces distinctions, comme justement Francis Château-Renault dont on a parlé. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais est-ce qu'une partie de ces désaccords ne relève pas, au moins partiellement, de conflits de culture épistémique entre domaines scientifiques différents ? Les discours sur les controverses du climat en France, les discours communs, sont presque toujours axés sur les climato-sceptiques et sont souvent largement inspirés de travaux sur les sceptiques américains. On parle couramment de scepticisme organisé, de lobby, de la presse qui donne un accès égal aux deux parties, de marchands de doute, etc. Or, il faut rappeler en premier lieu que la situation, évidemment, de la France, bon, on en a déjà un petit peu parlé, et plus généralement de l'Europe, est totalement et radicalement différente de celle des États-Unis en ce qui concerne la politique climatique, en ce qui concerne l'importance et l'organisation des sceptiques, le rôle joué par la presse, etc. Bon, Jean-Baptiste a exposé le cadrage médiatique du changement climatique en France et la place qu'y tiennent les sceptiques. On voit que les États-Unis, dans ce domaine, ça a déjà été dit dans d'autres lieux, constituent beaucoup plus l'exception que la règle. Et néanmoins, on continue à tenir des discours qui s'inspirent assez largement des discours tenus sur les sceptiques américains, donc je voulais attirer un peu l'attention sur ce point. Bon, j'ai donc cherché à comprendre pourquoi le discours sur les controverses du climat était aussi bipolarisé et souvent simpliste, et pourquoi en France, il y a eu assez peu d'études de controverses par des chercheurs en sciences humaines et sociales, comme il y en a dans d'autres domaines tels que le nucléaire, les OGM, etc., hormis évidemment le travail de Jean-Baptiste et notre travail avec Jean-Baptiste et Stéphane. Et j'ai tenté une analyse un peu différente de certains débats et controverses sur le climat. Parce qu'il me semble que cette bipolarisation occulte en réalité une plus grande variété de débats, de positions et d'acteurs. Au-delà de la pure et simple négation du changement climatique d'origine humaine, beaucoup d'autres critiques s'expriment qui sont moins médiatiques, même si certaines ont pu accéder ponctuellement et dans une faible mesure et dans une période étroite aux médias, comme on l'a vu. Et ces débats peuvent concerner l'importance du problème climatique, son hégémonie, les sciences du climat, leur place, leur méthode, la politisation du domaine, etc. Ces controverses ont souvent lieu dans les milieux scientifiques, notamment au sein des sciences qui sont concernées par les questions du climat et du changement climatique, qu'il s'agisse par exemple d'inclure des processus ou des milieux dans les modèles, comme l'hydrologie ou les écosystèmes, qu'il s'agisse d'évaluer les conséquences du changement climatique dans des nombreux domaines, ce qu'on appelle les impacts, agriculture, santé, etc., migration aussi, ou qu'il s'agisse d'envisager des mesures d'adaptation. Ici, je vais explorer des débats et des questionnements sur le changement climatique qui émanent de la communauté, ou plutôt des communautés, comme on verra, des géographes. La géographie entretient en effet des relations très anciennes et très spécifiques, à la fois au climat et à l'environnement, et de plus, certains géographes français ont pris des positions publiques controversées. Donc, je vais dans une première partie présenter mes hypothèses sur notamment le rôle du cadrage de la question climatique dans la polarisation des débats et aussi sur l'existence de conflits de culture épistémique dans ce domaine. Et dans la deuxième partie, qui est en fait le centre de l'exposé, je vais présenter mon enquête dans la communauté des géographes. En revenant sur l'histoire de la discipline, ses relations aux questions d'environnement, sur sa structuration en France, mais évidemment en accent sur les pratiques et discours des géographes climatologues, notamment. Je reviendrai sur ce qu'on entend par géographe climatologue. Et dans la dernière partie, je tenterai d'analyser un peu ces résultats, de me demander s'il y a donc ou pas un rôle des spécificités épistémiques dans les controverses. Et je vais conclure par des réflexions sur les vertus d'un tel décentrement, pour prendre une certaine distance par rapport au cadrage dominant et sur peut-être des perspectives de recherche. Donc, j'ajoute que ce que je vais dire, en fait, est un très net prolongement, du moins, à mon avis, des deux présentes présentations, aussi bien celle de Jean-Baptiste que celle de Mayana. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, vous jugerez vous-même. Donc, comment expliquer la bipolarisation du débat sur le climat et la focalisation sur les climato-sceptiques ? Bon, il y a leur présence médiatique, mais elle est relativisée fortement, comme l'a montré Jean-Baptiste. Il y a leur personnalité en France qui joue un rôle. Très souvent, je pense à cette citation d'Alfred Hitchcock, « The more successful the villain, the more successful the picture ». Plus le méchant est réussi, plus le film est réussi. Et je pense souvent à ça quand je vois des climato-sceptiques. Et une autre raison importante, plus sérieusement, au moins du côté du physicien du climat et des modélisateurs, c'est l'influence académique de certains de ces sceptiques et leurs attaques, non seulement du changement climatique, mais, ce qui est au moins aussi grave d'un certain point de vue, de la légitimité des sciences du climat et notamment de la modélisation. Mais surtout, il me semble que ce discours polarisé s'intègre bien au cadrage du changement climatique. On a d'un côté, ça a été dit, hein, la vérité scientifique, donc il est inutile de parler des partis pris politiques, et de l'autre côté, les intérêts politiques, donc on peut oublier les enjeux et débats scientifiques. Or, évidemment, le fait que le changement climatique soit réel n'empêche pas, anthropogénique, hein, n'empêche pas qu'existent des deux côtés des engagements politiques et des enjeux scientifiques. Bon, le cadrage du problème climatique, on le sait, est conforme au modèle linéaire de relation entre sciences et politique et veut donc que la vérité scientifique diffuse dans le corps social. C'est ce qu'a dit un petit peu Stéphane tout à l'heure, et qu'il n'y a à expliquer que les écarts à cette diffusion. Et que du consensus du GIEC et de son acceptation par le public découle l'action politique. Et dans ce schéma, les sceptiques qui sont accusés d'instiller le doute sont implicitement, plus ou moins, c'est pas clair, soupçonnés d'avoir une responsabilité dans l'échec ou dans la lenteur de l'action politique. Or, en fait, on sait très bien, du moins les gens qui participent aux négociations, par exemple, ou impliqués dans ce domaine, que le climato-scepticisme n'est quasiment pas en cause dans les négociations ou les politiques climatiques, et que la plupart des États adhèrent au diagnostic de l'IPCC, du GIEC. Et comme l'a dit un politiste, la vraie question n'est pas le scepticisme, mais pourquoi les croyances ne mènent pas à l'action. Bon, mais je crois qu'on reparlera de tout ça dans une table ronde. Donc, la polarisation du débat climatique résulte en grande partie, selon moi, je fais cette hypothèse, de ce cadrage linéaire. En conférant à la science le rôle d'arbitre suprême pour la décision politique, ce cadrage conduit à lier le diagnostic et la solution. Des chercheurs ont montré qu'en voulant scientifiser la politique, on aboutit en réalité à politiser la science. Tout le monde prétend mener le combat sur le terrain scientifique et tout le monde accuse l'adversaire d'être en réalité mu par des motivations politiques. Donc on aurait une forme de superposition entre une opposition binaire sur la responsabilité humaine et une bipolarisation politique entre ceux qui veulent lutter contre le changement climatique et ceux qui refusent le diagnostic et l'action par volonté de ne pas changer de comportement, etc. Donc, il ne s'agit pas de contester cette polarisation, d'autant plus vraie, d'autant plus réelle qu'elle est voulue et construite par beaucoup d'acteurs qui sont désireux à la fois de rassembler des alliés et d'identifier des adversaires. Mais pour moi, il s'agit de faire un pas de côté et d'essayer de regarder des débats et des controverses qui ne se rangent pas tout à fait selon cette dichotomie et de m'intéresser à des acteurs qui ne s'y reconnaissent pas tout à fait. En effet, cette polarisation conduit à naturaliser le cadrage qui l'engendre et à rendre invisible tous les questionnements et les points de vue dissonants, comme on a dit, ou parfois à les assimiler au climato-scepticisme, ce qui permet de grossir les rangs des climato-sceptiques en cristallisant des mécontentements très divers. Donc, déployer la diversité des désaccords aurait de nombreuses vertus, entre autres d'enrichir le débat. Parmi ces désaccords, on peut penser que certains ont une dimension épistémique ou disciplinaire, que des conflits de culture épistémique peuvent se manifester dans certaines positions ou critiques de scientifiques concernés dans leur travail par le climat ou le changement climatique, mais qui ne sont pas climatologues, ou plutôt qui ne sont pas physiciens ou chimistes de l'atmosphère, puisque le mot climatologue, j'y reviendrai, est un peu compliqué, surtout quand on parle de géographe. Donc ce terme de culture épistémique, qu'il ne faut pas confondre avec celui de communauté épistémique, hein, je dis parce qu'il y a parfois une confusion, donc désigne le fait que des scientifiques qui ont des pratiques et des méthodologies éloignées développent des épistémologies et des conceptions différentes de ce qu'est la science. Ça renvoie aux travaux de Karine Knorr-Chetina, donc qui est aussi une chercheuse en Science and Technology Studies, en STS. Est-ce que la modélisation physique et chimique de l'atmosphère, qui joue un rôle central dans la question climatique, n'engendre pas peut-être des rejets? Est-ce qu'on peut supposer que l'impératif de modélisation, la suprématie possible du niveau global, le downscaling, la descente en échelle, la primauté du facteur climatique, est-ce que tout cela n'est pas toujours jugé pertinent par des chercheurs qui travaillent à d'autres échelles, à partir d'autres paradigmes, et voient parfois leur propre discipline reconfigurée suivant des logiques différentes? C'est ça l'hypothèse. Le rôle de concurrence de culture épistémique dans des controverses sociotechniques a déjà été montré dans le cas des OGM. Jean Foyer y a fait référence tout à l'heure. Christophe Bonneuil, qui est au Centre Coiré, a montré que l'engagement des biologistes dans le débat sur les risques OGM était lié à une compétition entre trois cultures épistémiques: les biologistes des populations, les généticiens et les agronomes, qui ont des interprétations différentes du problème. Ce travail partait en réalité d'une analyse de pétitions, de plusieurs pétitions, rassemblant des centaines de signataires, et d'une cartographie des communautés de biologistes à partir du recensement de ces signataires. Bon, dans le cadre des géographes, on n'a pas du tout des centaines de chercheurs qui s'engagent publiquement sur le climat, mais seulement quelques individus qui émettent des avis peu publicisés, et donc je n'ai pas effectué d'études quantitatives. J'ai seulement entamé une enquête de terrain dans la communauté des géographes français. Alors, contrairement à Mayana, dont l'enquête était ancienne, moi, c'est une enquête ultra récente, menée au moins pour moitié le mois dernier. Donc, je n'ai pas eu énormément de temps, elle est encore en cours, et ses résultats, ses conclusions sont évidemment préliminaires, il faut les prendre comme telles. Donc, le choix d'étudier les relations de la communauté des géographes aux problèmes climatiques, il s'impose pour plusieurs raisons assez directes. D'une part, parce que tout simplement la géographie étudie les relations entre les sociétés humaines et leur milieu, et donc est concernée par les questions d'environnement, comme on le verra, j'y reviendrai. D'autre part, deuxième raison, une sous-communauté de géographes travaille sur le climat depuis longtemps, bien avant que s'impose la modélisation. Troisième raison, certains géographes sont concernés par l'étude des manifestations régionales ou locales du changement climatique, donc ce qu'on appelle les impacts. Et quatrième raison, non des moindres mais plus circonstancielles, quelques géographes se sont exprimés de façon polémique sur le changement climatique et les problèmes environnementaux. Il y a eu en 2010 un colloque intitulé « Non, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête », rassemblant un certain nombre de géographes, puis est paru un livre avec le même titre, et toujours à la fin 2010, la Société de géographie a remis son grand prix à Claude Allègre pour son livre « L'imposture climatique ». Qui a suscité de très vives réactions dans la communauté des géographes, j'y reviendrai. Donc, un petit peu en réponse à tout ça, des géographes ont organisé un colloque en septembre 2012 sur le thème « Géographie, écologie et politique, un climat de changement ». Pour, selon leurs propres paroles, questionner les réticences de la géographie française à aborder les questions écologiques. Donc, mon enquête, qui est donc préliminaire, elle a consisté d'abord en une quinzaine d'entretiens approfondis avec des géographes de différentes spécialités, climatologues ou non, concernés ou non par l'environnement, de différentes sensibilités, traditions et aussi de différentes régions, institutions et générations, tous ces paramètres étant importants. Ça peut paraître assez peu, et c'est assez peu, mais il faut savoir que la communauté des géographes, surtout celle concernée par les questions de climat, est très réduite. Donc, il y a évidemment ces entretiens ne prétendent ni à être exhaustifs ni à être représentatifs, mais ils représentent quand même une part non négligeable, en fait, des gens concernés. J'ai évidemment aussi lu des articles, des livres, exploré des sites web, etc., et assisté au colloque sur les relations entre géographie et écologie que je viens de mentionner. Je veux quand même encore rappeler que le champ de la géographie est très vaste, très complexe et très divisé, comme j'ai pu le constater, que c'est une histoire ancienne, riche et conflictuelle, en particulier sur les relations avec l'environnement, et que ce domaine étant nouveau pour moi, il est assez exploratoire encore. Voilà. Donc, quelques mots sur la géographie. Bon, c'est d'abord une discipline d'enseignement, de géographie universitaire et de recherche en France. Les universitaires géographes ont la charge de former les futurs professeurs d'histoire géo des collèges et des lycées, de préparer les étudiants au concours d'enseignement CAPES et agrégation. Donc, il faut un enseignant de géographie humaine et un enseignant de géographie physique dans chaque région ou à peu près, d'où une dispersion structurelle. L'environnement est d'ailleurs très présent dans cet enseignement, ne serait-ce que parce que le développement durable est la ligne directrice des programmes des classes de 5e et de 2e. D'où une importante activité éditoriale par les géographes, un peu vulgarisatrice et pédagogique, notamment pour enseigner le développement durable à des enseignants qui, à la base, ont surtout une formation d'historien. Les géographes sont souvent enracinés localement, j'ai dit, et pratiquent un travail de terrain. Ils publient essentiellement en langue française. Ils sont peu internationalisés et ils participent très peu à de grands projets. Mais ils investissent un champ très important qui est celui de l'aménagement du territoire. Tous ces enseignants universitaires, enseignements universitaires de géographie forment très massivement les cadres de collectivités territoriales et dans ce domaine aussi, les questions environnementales sont assez présentes. Donc la géographie, j'en ai dit quelques mots, elle est divisée malgré sa prétention holistique fondamentale. Et bien qu'il travaille sur les interactions entre société humaine et milieu naturel, la géographie n'a pas su transcender, c'est ce que disent souvent les géographes, la division entre sciences humaines et sciences naturelles, ce qui ne lui est pas propre parce que c'est un problème beaucoup plus vaste et beaucoup plus général. Donc il y a la géographie physique qui se dit science physique et il y a la géographie humaine qui veut appartenir au qui appartient au SHS. Ces deux domaines ne se fréquentaient absolument pas pendant les années 70 et peu après, et même aujourd'hui, ces divisions restent tenaces. Quelques chiffres de diverses sources qui permettent d'avoir une première idée de la place du climat dans la recherche en géographie. Il y a un répertoire qui est abrité par le site Géomonde de l'UMR Prodige, qui est un UMR de géographie, recense environ 1650 géographes, ce qui est un chiffre indicatif dans la mesure où on peut ou non s'inscrire quand on est géographe. Il y a des enseignants-chercheurs et des chercheurs au CNRS, mais aussi dans d'autres organismes publics, mais aussi des chargés d'études dans les collectivités territoriales, des consultants et des doctorants. Donc ce chiffre est vraiment indicatif. J'ai relevé 163 personnes, donc environ 10%, dont le thème de recherche comporte le mot « climat ». Et 98 sur ces 163, le mot « changement climatique », ce qui ne veut absolument pas dire qu'il s'agit de spécialistes, mais que le climat intervient dans de nombreux domaines de la géographie, comme, je prie par les 3-4 premiers exemples, bioclimatologie, écologie végétale, cartographie des risques littoraux, géohistoire des risques d'inondations dans le sud-ouest, évolution morphoclimatique du rift marocain. Voilà, il est très souvent question de climat. Autre source de renseignements, les organismes et les sociétés savantes. La Société de géographie française, la fameuse qui a décerné le prix Allègre, s'enorgueillit d'être la plus ancienne au monde. Fondée en 1821, elle comptait parmi ses premiers membres Laplace, Monge, Cuvier, Chapsal, Denon, Fourier, Gay-Lussac, Berthollet, Humboldt, Chapollion, Chateaubriand et j'en passe. Donc vraiment une équipe assez prestigieuse. Moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, de la vie générale, c'est une très vieille dame. C'est un mot qui est revenu plusieurs fois, marqué par un passé colonial qui compte dans ses rangs, qui a compté beaucoup d'explorateurs et de cartographes, qui compte encore des militaires et qui ne joue quasiment aucun rôle scientifique. Beaucoup plus actif et plus représentatif est le Comité national français de géographie, qui représente les géographes français auprès de l'Union géographique internationale. Ce comité comprend 23 commissions, dont la commission climat et société, qui compte une cinquantaine de membres et seulement une petite trentaine de chercheurs et enseignants-chercheurs actifs. Il y a une autre structure qui est l'Association internationale de climatologie, qui réunit des géographes climatologues francophones et qui édite une revue en français, Climatologie. Fait très significatif et qui m'a été souligné, les présidents de la commission climat et société comme ceux de l'Association internationale de climatologie ont immédiatement adressé une lettre ouverte au président de la Société de géographie lors du prix à donner à Allègre et ont démissionné immédiatement également de cette société. Avant d'aborder l'histoire des relations de la géographie au changement climatique, je veux dire quelques mots de leur relation aux questions d'environnement. Ce qui n'a rien d'évident en réalité, parce que si nous avons l'habitude de considérer la question du changement climatique comme la question environnementale globale, elle est souvent étiquetée de cette façon. En géographie, ce ne sont absolument pas les mêmes sous-disciplines qui s'occupent du climat, puisque ceci relève de la géographie physique, de l'environnement, qui relève davantage de la géographie humaine, et même des impacts du changement climatique, qui relèvent souvent d'autres encore d'autres sous-disciplines, comme par exemple la géomorphologie. Il y a une petite anecdote, quand je suis allée au centre de recherche à Dijon, il y avait un bâtiment de sciences physiques avec un géographe climatologue, un bâtiment de sciences sociales avec la géographe de l'environnement, et ils ne se connaissaient pas, il faut dire qu'elle n'était pas là depuis très longtemps, mais enfin, ils ne se connaissaient pas, ou plutôt, ils se connaissaient juste uniquement par une action de la région sur l'adaptation au changement climatique. Voilà. Donc, ça montre bien que davantage que les domaines de recherche, ce sont les débats ou l'action publique qui rejoignent ces différents domaines dans la communauté de géographie. Et par exemple, le livre « Le ciel ne tombera pas sur la tête » aborde à la fois des questions d'environnement et de changement climatique par des géographes. Pour mieux comprendre les relations de la géographie à l'environnement, il faudrait retracer l'histoire de cette discipline. Ce que j'ai découvert, c'est que n'importe qui ouvrant un livre d'histoire de géographie pourrait découvrir d'ailleurs, c'est que bien des questions aujourd'hui extrêmement brûlantes, celles des relations entre hommes et nature, gaspillage des ressources, responsabilité humaine, déterminisme, catastrophisme, etc., etc., ont été débattues par les géographes dès le 19e siècle. Et à l'heure du triomphe de l'Anthropocène, du moins de sa grande popularisation, je ne résiste pas à la tentation de citer un grand géographe français, Élisée Reclus, qui écrivait dans un de ses nombreux ouvrages « La Terre » en 1866, « Les populations, devenues de véritables agents géologiques, ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l'économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes. » Il écrit beaucoup de choses de cette eau. Donc, ce livre s'inspirait des travaux d'un géographe américain, George Marsh, bien connu, sur les dégradations de la nature par les sociétés humaines, mais pour Reclus, qui est aussi une très grande figure de l'anarchisme et un combattant de la commune, et actuellement encore dans la communauté anarchiste, une figure tutélaire, la question de l'environnement n'est pas séparée de la question sociale. Il accusait Ernst Haeckel, le père de l'écologie, de soutenir le social-darwinisme. Reclus refusait la fatalité physique, le déterminisme, le naturalisme. Et selon certains géographes, son œuvre serait d'une grande richesse pour comprendre pourquoi la géographie a un rapport difficile avec l'écologie et le rôle de la politique dans tous ces débats. Même s'il faut faire très attention aux anachronismes et au fait que les catégories changent, évidemment, de même que les connaissances. Donc l'œuvre de Reclus, très innovante, une œuvre qui aurait pu être celle d'un passeur entre écologie et géographie, n'a guère eu de suite de successeur selon les spécialistes. Une autre grande figure de la géographie française, c'est Paul Vidal de la Blache, vous avez ici leur date, qui est à la fois influencé et en opposition au déterminisme des géographes allemands. Et c'est le père d'une géographie régionale, naturaliste, morphologique, et qui prétend être holistique. Il a été très vivement critiqué dans les années 60, et la géographie vidalienne, qui était dominante, a fait place à une géographie dite spatialiste, influencée par le marxisme, et qui rejetait les explications naturelles et la géographie de terrain, en privilégiant les explications économiques et sociales. L'environnement est considéré comme une façon de ne pas parler des rapports sociaux, est alors réduit à une question de représentation. Dans les années 90, il y a eu plusieurs tentatives pour réintroduire les questions d'environnement en géographie, en particulier le ministère de l'écologie, a suscité un certain nombre de programmes de recherche, les PIR, les PEVS, les zones ateliers, etc., qui ont eu un rôle assez important, même si, selon des géographes encore, la greffe n'a pas vraiment pris pour donc la réintroduction de l'environnement en géographie. Aujourd'hui, toujours selon de nombreux géographes, il existe une demande politique et le moment est probablement favorable pour un tel renouvellement. Mais il y a donc des antagonismes, comme en témoignent les livres et colloques dont je vous ai parlé, que j'ai cités. Des géographes, dont donc les contributeurs au livre « Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête », professent des opinions anti-environnementalistes en appuyant prenant appui sur leur terrain, leurs pratiques, leur connaissance de l'histoire, pour développer une vision de l'évolution des sociétés humaines qu'ils disent plus positive que la vision qualifiée de catastrophiste qu'ils condamnent. Et ils opposent leur foi en l'homme, qu'ils disent appuyée sur leurs pratiques, avec la culpabilisation de ce qu'ils, une espèce d'ensemble qui pour eux regroupe à la fois la question du changement climatique et les environnementalistes. Étant impliqués, comme j'ai dit, dans la mise en valeur des territoires, ils mettent davantage en avant les avancées techniques et économiques que les dégradations que celles-ci peuvent occasionner. Selon leur dire, géographes et écologues auraient un même objet, mais une approche différente. D'autres géographes, donc dans le colloque Géographie, écologie, politique notamment, condamnent ces discours qu'ils qualifient de simplistes et de politisés, tout en admettant d'ailleurs que certaines questions posées notamment lors du colloque valent d'être soulignées, comme par exemple le retour en grâce d'un certain déterminisme, la nécessité d'interroger certaines notions, etc. Ces géographes plus sensibles aux questions d'écologie font le constat d'un décrochage de la géographie qui aurait raté le train de l'environnement et pas su capitaliser un savoir propre malgré une grande familiarité ancienne avec ces sujets. Et ils appellent de leur vœu une nouvelle géographie de l'environnement qui prendrait en charge les questions globales et saurait tirer parti de sa position d'interface entre science et société, en science de la nature et société. Donc chaque camp présente une diversité de positions et pourrait aussi bien souligner une forme de continuum qu'une bipolarisation. Je dirais maintenant quelques mots de l'histoire de la climatologie géographique, sachant que ces notions sont assez françaises, ou du moins il semble que les dénominations des groupes, des disciplines et des sous-disciplines soient différentes selon chaque pays. On a vu que la question de l'environnement contraint la géographie à des recompositions. Eh bien, un petit peu parallèlement, le surgissement du changement climatique d'origine humaine et de la modélisation du climat a représenté pour les géographes climatologues une véritable révolution. Ce mot est venu plusieurs fois. Aujourd'hui, le mot climatologie désigne le plus souvent la physique de l'atmosphère, mais il faut savoir qu'avant les années 1980, il s'agissait d'abord, en France, d'une sous-discipline de la géographie physique, orientée souvent d'ailleurs vers l'aménagement du territoire. On avait les météorologues, ingénieurs de formation, qui étudiaient le temps à partir d'équations, et les climatologues géographes, qui travaillaient sur des données d'observation du climat présent et passé. L'irruption de la modélisation du climat, des bases de données planétaires en même temps que celle de la question du réchauffement global, présenté comme étant à peu près concomitant dans les années 80, au tout début des années 80, va bouleverser ce paysage. Les physiciens de l'atmosphère se sont emparés du temps long du climat, m'a dit un géographe. Ils s'en sont emparés grâce à leurs outils informatiques, évidemment, mais aussi à leurs institutions, leurs infrastructures, et là, évidemment, on peut penser aux travaux de Paul Edwards et de Clark Miller, et ils ont extrêmement rapidement marginalisé les géographes. Donc, un des géographes que j'ai interrogé a déploré que les géographes climatologues n'ont pas seulement été écartés, mais que leur rapport a été totalement effacé, notamment des histoires de la climatologie. L'arrivée de la modélisation a aussi condamné des approches qui se sont révélées à cette occasion dépassées, voire complètement fausses, comme des analyses phénoménologiques du géographe Marcel Leroux de Lyon, dont les théories qui sont reprises par certains sceptiques, entre guillemets, dans les blogs, ont fait beaucoup de mal à la géographie, m'a-t-on dit à plusieurs reprises. Si des climatologues géographes ont ressenti un certain dépit, on leur volait leurs objets, leurs terrains, on contestait leurs outils, m'a-t-on dit. D'autres ont pris le virage et ont cherché les créneaux où ils pouvaient offrir une valeur ajoutée. Qu'en est-il des géographes climatologues aujourd'hui ? Bon, j'ai dit, ils sont peu nombreux, très dispersés. Il n'existe en fait qu'un laboratoire un peu important à l'Université de Dijon, le Centre de recherche climatologie, qui compte une douzaine de chercheurs permanents et autant de doctorants et post-doctorants. Ces climatologues sont les principaux utilisateurs du centre de calcul de l'Université de Dijon. Et ils travaillent notamment sur des modèles régionaux en pratiquant de la descente d'échelle, downscaling, statistique et dynamique, approche assez courante en fait dans le monde, mais assez rare en France. Ils confrontent de façon détaillée des séries statistiques sur les observations et sur des simulations du climat dans différentes régions d'études, la leur, mais d'autres aussi en Afrique du Sud notamment. Ils se disent plus climatologues que géographes, mieux insérés dans les réseaux de l'INSU que dans ceux de leur discipline. Mais, disent-ils, ils n'abordent pas le climat de la même façon que les physiciens de l'atmosphère, alors que ces derniers partent de la physique des processus, donc de simplification, les géographes étudient des signaux complexes pour en comprendre les mécanismes. Là, je cite toujours des géographes. D'ailleurs, il faut noter que en géographie, énormément de chercheurs se disent plus proches des disciplines avec lesquelles ils travaillent que des autres géographes. Bon. C'est une chose que, quand on travaille en sciences sociales, en histoire des sciences au Centre Coiré, on peut comprendre, puisque nous, on est historiens des sciences, mais on travaille avec des sociologues, des politistes, etc. Donc, toutes ces questions d'interdisciplinarité complexe font écho, éventuellement, chez nous aussi. Donc, en étudiant les observations, comme ils le font, les géographes climatologues se disent bien placés pour détecter le changement climatique, ou plutôt, en réalité, les différentes façons dont se manifeste ce changement climatique suivant les régions. C'est en travaillant sur la variabilité annuelle régionale que le changement climatique s'est imposé, m'explique l'un d'eux, travaillait sur la Bourgogne en l'occurrence. En revanche, ces géographes travaillent peu sur, effectuent assez peu finalement de projections de climat futur, sauf quand ils estiment que leur modèle régional a été très bien validé quant à son aptitude à décrire certaines caractéristiques du climat présent bien précises. Par exemple, reste en Bourgogne, l'intégration des températures qui dépassent un certain seuil, qui est un indicateur très important pour la culture de la vigne, ce n'est pas la température moyenne quotidienne, c'est tant de jours de suite dépassant tel tant de degrés, cette indication est assez bien reproduite par le modèle régional sur lequel ils travaillent et qu'ils maîtrisent très bien, ce qui autorise avec beaucoup de prudence certaines projections futures, sachant que les incertitudes s'accumulent, comme ils me le disent eux-mêmes. Donc, les géographes climatologues ne travaillent pas sur l'adaptation parce qu'ils estiment qu'il y a une manque de fiabilité des modèles régionaux et qu'il y a une trop grande complexité des causes, et ils ne participent pas au rapport du GIEC s'ils s'estiment petits et trop peu nombreux. Leurs relations avec les physiciens de l'atmosphère sont complexes et ambiguës. Certains relèvent la crainte d'être des prestataires de services qui fournissent des données d'entrée à l'amont des modèles et des validations en aval. Quelques-uns, mais pas tellement parmi les géographes en réalité, soupçonnent les physiciens de condescendance et de mépris à l'égard du terrain. D'autres considèrent au contraire que les physiciens sont en manque d'inspiration et ont besoin de leur apport. L'un d'eux m'a dit « Ce qui séduit les physiciens, c'est qu'on connaît le terrain, on le voit autrement qu'à travers un instrument. » Ça, ils aiment bien. Donc, les géographes réfléchissent à ce que pourrait être leur valeur ajoutée, par exemple, en ce qui concerne les conséquences du changement climatique en termes de vulnérabilité. Mais leur place n'est pas aisée à définir. Un chercheur souligne les difficultés de la géographie à s'élever au-delà des études de cas, à monter en généralité. Un autre marque que les belles déclarations sur l'apport de la géographie ne se traduisent pas toujours quand il s'agit de monter des projets de recherche où chacun veut sa part du gâteau. Alors, est-ce que ces géographes ont un discours, les géographes en général, pas seulement les climatologues, mais aussi les géographes climatologues, maintenant qu'on sait de quelle catégorie il s'agit, est-ce qu'ils ont un discours spécifique sur le changement climatique ? En réalité, il existe une grande diversité de positions, mais aussi des points communs. Personne, du moins parmi ceux que j'ai vus et que j'ai lus, ne nie la réalité du changement climatique anthropogénique. Tous aussi, y compris contestants le changement climatique tel qu'il est présenté, tous dénoncent le prix donné à l'air, ne serait-ce que parce que c'est extrêmement maladroit et très malvenu. C'est une décision unilatérale et politique de Jean-Robert Pitt, bien connu et pas toujours apprécié des géographes, président de la Société de géographie, totalement ignorant des questions de climat. Ça, je l'ai entendu un certain nombre de fois. Cela dit, on est très loin de l'unanimité. Les géographes qui critiquent les discours sur l'environnement et le développement durable, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont aussi, pour reprendre l'appellation d'une géographe que j'ai rencontrée, des climato-réservés. C'est ça qu'elle a trouvé, nouveau terme que j'introduis, parce qu'elle estime que ce n'est pas des climato-sceptiques, climato-réservés. En anglais, je ne savais pas si je devais traduire reserved ou reluctant. Bon, donc, je ne sais pas. Donc, ces géographes réservés s'appuient sur leurs pratiques de terrain et d'analyse d'observation pour formuler des critiques sur de très nombreux aspects des sciences du changement climatique, sur la pertinence de certaines agrégations d'observations, sur l'excès de mathématisation, pas seulement en modélisation, mais surtout sur le rôle excessif des modèles, l'insuffisance de distance critique à leur égard, l'insuffisance de reconnaissance des incertitudes et des limites, et surtout aux échelles régionales, sur une excessive focalisation sur le CO2, au détriment d'autres problèmes d'environnement, je crois que Mayana en a parlé tout à l'heure aussi, sur une vision monolithique du futur qui méconnaît les variabilités du climat, variabilité aussi bien dans le temps que dans l'espace, sur le simplisme des messages sur le changement climatique, le simplisme des médias en particulier, qui refusent les nuances et les incertitudes, en particulier sur les impacts, les attributions. Et ils analysent, enfin critiquent également le lexique certain du régime climatique. Réchauffement global, quel sens ça, disent-ils ? Changement climatique, est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre au pluriel ? Et impact, dont on a souligné la connotation très top-down, très balistique, très monocausale. Mais la critique la plus répandue, c'est de méconnaître la complexité des phénomènes locaux. Le fait qu'existe bien d'autres causes, notamment anthropogéniques, aux catastrophes, et les géographes citent d'innombrables exemples d'études qui contestent la pertinence de certains calculs très globaux, comme le rendement à l'hectare qui correspond à telle hausse de température, ou le simplisme des attributions au climat. Par exemple, la sécheresse dans telle île doit moins au climat qu'au pompage profond, qui lui-même a des causes qu'on peut faire remonter à des questions économiques, etc. Donc ces remarques rejoignent des études critiques qu'on pourrait qualifier du type « Not only climate change ». C'est le titre très éloquent d'un article sur la vulnérabilité dans plusieurs pays en développement. Il existe en effet d'assez nombreux travaux qui ont mis en cause l'attribution au changement climatique de toutes sortes de choses, les migrations, les maladies, etc. Et ces travaux soulignent ou accusent la méconnaissance des réalités de terrain, de l'intrication de facteurs naturels et sociaux, la méconnaissance de ces facteurs dans les vulnérabilités. Pour revenir aux climato-réservés, ils ont été assez influents dans l'enseignement de géographie et dans le paysage éditorial, je l'ai dit. Et il faut tenir compte de cette influence qui fait qu'un certain nombre de géographes sont assez partagés. Cela dit, ils seront critiqués, je l'ai dit aussi, par les géographes, notamment dans le colloque dont je parle, même si certains questionnements sont également partagés. Et les climatologues géographes sont également en désaccord avec ces climato-réservés sur d'autres bases. Comme ils utilisent les outils de modélisation, ils ne considèrent pas qu'il y a une suprématie du niveau global, ils voient au contraire des cohérences et des déclinaisons entre échelles. Ils sont moins critiques envers les modèles, évidemment. Et ils analysent l'hostilité de leurs collègues comme une sorte de mixte entre considérations politiques, disciplinaires, intradisciplinaires, voire ignorance. Il n'y a pas de cohérence politique. On va revenir à mon anglais. Voilà ce que c'est que de... Bon, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de cohérence politique, m'a-t-on dit. Il n'y a pas des pros ou des anti-environnementalistes. Il n'y a pas des anti-écologistes ou des pros écologistes. Il y a simplement des géographes qui n'ont pas su prendre le tournant des années 80 et ils se sentent spoliés. C'est une question d'équilibre de pouvoir entre disciplines. Cet équilibre change quand de nouvelles questions émergent. Donc, finalement, derrière la variété des points de vue et même les confrontations, il y a des éléments communs et même peut-être des paradigmes fondateurs pour les géographes. La primauté des interactions entre société et milieu, une forme de position d'interface à la fois entre l'action humaine et la nature et entre différentes échelles, et une vision assez interdisciplinaire et large. Et peut-être un goût pour le concret, pour le terrain, pour la complexité et une certaine aversion pour les explications simples qui viennent en fait d'une méfiance historique envers le déterminisme et le naturalisme. C'est du moins ce qui m'a été parfois expliqué. Donc, à la fin de cette investigation parmi les géographes, est-ce que mon hypothèse initiale, le rôle des conflits de culture épistémique dans les querelles sur le changement climatique, est vérifiée ? Il n'y a pas de réponse catégorique à cette question. Dans le cas des OGM, il y avait bien une controverse bien développée avec des sous-communautés bien structurées, avec des cultures bien définies. Ici, on l'a vu, on a une communauté petite et divisée et avec des accords qui ne peuvent pas se réduire à une polarisation, avec un certain nombre d'affirmations qui sont en partie liées, mais en partie seulement, aux sous-disciplines, comme par exemple les climatologues géographes-climatologues. Cependant, les cultures épistémiques, de toute évidence, jouent un rôle, souvent mêlé aux questions politiques. Les cultures, les visions, les pratiques, on le sait, forment les ontologies, elles contrôlent partiellement les conceptions des objets qu'on étudie. Par exemple, les physiciens de l'atmosphère sont sensibles aux paramètres globaux, ce que ne sont pas forcément de la même façon les géographes. Ils pensent comme une planète, comme dirait Aldo Leopold, mais on peut aussi reprendre la phrase de Mike Hume, le géographe, qui parle de « view of nowhere, which has no local resonance ». Inversement, la pratique et culture des géographes les rend extrêmement précautionneux et attentifs aux multicausalités et aux intrications. Cependant, il ne peut évidemment pas dire, ça serait faux de dire que les physiciens ont une vision globale et les géographes une vision locale. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas le cas des géographes climatologues que j'ai rencontrés. Mais chaque science simplifie, chaque science réduit, et chaque science est aveugle à certains aspects, à ses angles morts. Et du fait que différentes sciences font des simplifications différentes pour des objectifs différents, il peut tout à fait se trouver que des simplifications réalisées par une discipline semblent problématiques du point de vue d'une autre discipline. Donc, juste un mot sur l'articulation entre culture épistémique et politique, qui est un très vaste domaine. Il était évident que l'affiliation disciplinaire ne détermine pas la vue politique. Les géographes ne sont pas plus anti-écologiques par essence que les physiciens seraient écologistes par essence, mais la vision globale du changement climatique, on le sait, s'est appuyée sur une vision globale des sciences. C'est ce qu'ont montré Clark Miller et Paul Edwards. Et Mayanna Lesson a aussi montré que l'engagement des physiciens sceptiques aux États-Unis implique à la fois des dimensions politiques et culturelles. En même temps qu'ils défendent leur propre position d'élite intellectuelle, ils ont aussi des visions normatives de la science et de la modernité. Donc, finalement, les cultures et les pratiques peuvent être utilisées comme des arguments, comme des instruments au service de visions du monde. On l'a vu dans le cas des géographes, qui mettent en rapport leur champ d'expérience avec leur confiance dans les capacités humaines à s'adapter, mais c'est tout aussi vrai des experts globaux qui calculent les rendements agricoles ou le nombre d'immigrants correspondant à un tel réchauffement. Donc finalement, il n'existe pas en conclusion. Je ne peux pas donner de conclusion ferme sur le rôle des cultures épistémiques dans les désaccords sur le climat, mais il me semble qu'il y a d'autres intérêts à ce type de recherche, qui est de prendre une certaine distance par rapport au cadrage dominant. Et il me semble salutaire de faire ce travail de décentrage, de dénaturalisation, de distanciation, et d'écrire finalement un paysage plus varié du changement climatique. Et il me semble que c'est le travail un petit peu des chercheurs en sciences sociales de faire ce travail d'analyse de la construction des cadres, qui n'empêche absolument pas d'insister sur l'importance du problème et d'étudier des acteurs plus divers, ce qui permet par contraste de mieux comprendre ce que produit le cadrage dominant, comment est-ce qu'il devient dominant et aussi ce qu'il masque et ce qu'il néglige. Les perspectives de recherche, je ne vais peut-être pas tellement les développer. En revanche, je vais vous laisser lire ces phrases de Mike Hulme, qui est un géographe qui plaide lui-même pour à la fois le rôle de la géographie et une prise en compte d'une plus grande diversité. Je vous remercie.
Oui, c'est mieux. Donc, je voudrais remercier donc les organisateurs pour m'avoir invité à commenter cette présentation d'Hélène. Je pensais que c'était en anglais, donc j'avais préparé en anglais, mais j'ai l'impression que la plupart des gens dans la salle parlent français, donc je vais parler en français. Alors, je voudrais remercier Hélène d'abord pour cette présentation qui, moi, me paraît extrêmement stimulante et avec beaucoup de points qui prête à réfléchir. Le commentaire que je vais faire donc n'est pas celui de quelqu'un qui est spécialiste des questions du climat, je ne le suis absolument pas, mais elles partent de réflexions qui sont mises en regard avec ce qu'a développé Hélène, sur mes propres recherches qui sont celles qui questionnent les problématiques des substances chimiques toxiques et de la manière dont on gouverne les problèmes engendrés par les substances chimiques toxiques. Et en arrière-plan, quand j'ai lu et essayé de commenter le texte d'Hélène, il y a deux types de questions qui sont revenues, celle de ce qu'on appelle la construction du Global Chemical Regimes, et puis tout un ensemble de problématiques qu'on a autour de controverses, qui sont très complexes, autour des questions des faibles doses, donc des low doses. Donc c'est ces deux c'est des questions qui m'intéressent, sur lesquelles je travaille, et qui font écho à ce papier-là, qui m'ont aidé à réfléchir sur ce papier-là. Alors, moi, ce qui m'a intéressée dans ce papier-là, c'est la question des controverses plus que des cultures épistémiques. Alors, ça va revenir, mais c'est plutôt cette question des controverses qui m'a intéressée. Et c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit, mais qu'est-ce que nous, parce qu'Hélène en fait partie, moi aussi, qu'est-ce que nous, les gens qui nous affilions au mouvement d'une manière ou d'une autre, au mouvement STS, quand on s'intéresse aux controverses, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on recherche, finalement. Et je voudrais peut-être commencer par là, ça sera mon premier point. Les STS, donc, pour les Science and Technology Studies, sont quand même nés dans l'étude de controverses, c'est un point central de leur origine, et c'est aussi un point central, un des mouvements, c'est pas le seul, mais dans lequel elles se sont déployées, développées. Et les premières controverses qui ont été étudiées sont des controverses de type scientifique, plutôt, même si elles pouvaient avoir des implications sociales importantes. Et ces controverses, c'est quand même des controverses où les camps sont assez polarisés, où il y a des oppositions assez marquées, des camps qu'on peut très très bien identifier, et souvent c'est bipolaire. Ça peut être un peu plus que bipolaire, mais on a, finalement, on a on a intériorisé cette idée que les controverses, c'était des camps qui s'opposaient les uns aux autres, souvent deux camps, mais que ça pouvait peut-être éventuellement être des camps un peu plus compliqués, mais quand même polarisés. Si on continue comme ça, l'idée de controverse sociotechnique s'est développée, donc avec des choses beaucoup plus compliquées, quand même, ce qu'on recherchait les gens qui ont pratiqué les STS, ce sont l'identification de pôles qui s'opposent, de groupes assez bien identifiés, qu'on pouvait caractériser, à qui on pouvait donner des propriétés sociales, scientifiques, techniques, politiques. Mais on a quand même recherché, et on a en tête cette structure de « il faut identifier Alors, est-ce que c'est pourquoi est-ce que les STS sont quand même allés dans ce sens de polarisation, de l'idée que la controverse était autour de polarisation? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Ça serait il faut réfléchir à ça, mais peut-être. Alors, il faut réfléchir à ça, d'autant plus que chaque fois qu'on fait des analyses, les STS ont pu faire des analyses très précises, très fines. Et dans ces analyses, elles montrent ou elles peuvent montrer que finalement, les gens qui sont dans un camp le sont que partiellement, ont des points de vue un peu pas tout à fait tous le même point de vue, sont là pour des raisons différentes, et que finalement, des gens qu'on met dans certains camps peut-être ont plus d'affinités qu'on ne l'imagine avec des gens d'autres camps, qu'on identifie dans d'autres camps, etc., etc. Donc, quand on fait de la micro-analyse ou quand on fait de certains types d'analyses, on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué, mais au final, on arrive quand même à des récits, à des narratives qui sont ceux de camps identifiés avec des propriétés identifiées. Donc il y a une entreprise de réduction dans l'étude de controverse au STS qui est neuve, qui moi me semble légitime, qui se justifie. Comme dans toute science, on fait de la réduction, on fait de la sélection, mais peut-être qu'on n'a pas assez réfléchi à pourquoi on faisait ça et avec quelles conséquences on avait ce type de démarche. Alors, c'est des hypothèses auxquelles il faudrait réfléchir. Il y a la volonté de rendre lisible des controverses. On étudie des choses qui sont complexes, un social qui est complexe, et on a besoin de le rendre lisible. On a besoin de pouvoir l'interpréter. Il y a peut-être aussi le fait que ce qu'on pourrait appeler la face publique des controverses est souvent assez polarisée. Et donc, on est attiré par ça, par cette face publique et ce dont on veut rendre compte des controverses. Et si on s'intéresse à des controverses, c'est parce qu'elles ont une face publique, très souvent, que ce soit de grand public ou de public dans des milieux scientifiques. Et donc, c'est ces polarisations dont on veut rendre compte. Peut-être qu'il y a des raisons un peu plus profondes. On est quand même des gens qui nous intéressons aux sciences. Et avec l'idée, même si c'est une vérité qui est quand même... Avec l'idée qu'il y a quelque chose qui s'approche de la vérité scientifique, même si c'est que contextualisé à une période, dans un groupe donné, etc., etc., et que, quelque part, dans ces groupes polarisés, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vérité scientifique et de ce qui pourrait aussi justifier une action politique. Le modèle linéaire qu'on a dans le climat, mais qu'on a dans les produits chimiques, qu'on a dans tout un ensemble de choses. Et donc, on est quand même, je pense, intrinsèquement tiré un petit peu par cela. Alors, cette idée que les STS sont quand même attirés par la polarisation, à mon avis, a trois types de conséquences, et ça va être mes points suivants. Alors, le premier que je ne vais pas développer, mais je pense qu'on aurait intérêt à mener un travail un petit peu réflexif sur ce que ça veut dire qu'étudier ou partir de l'hypothèse que les controverses sont construites autour de groupes qu'on peut identifier, que ce soit avec des cultures épistémiques, que ce soit au moyen d'affiliations politiques, etc., etc. Peut-être qu'il y a d'autres hypothèses de départ qu'on peut faire, et je pense que le papier d'Hélène invite à d'autres hypothèses. Et moi, j'ai un travail que je ne suis pas arrivée à mener, un travail avec un postdoc, qui était justement d'identifier des groupes autour des problématiques faible dose, et on n'est pas arrivé à le mener à bien, des groupes identifiés de scientifiques, et donc de conception des faibles doses, c'est des controverses compliquées. Et donc là, ça m'a posé la question aussi, pourquoi est-ce que je voulais absolument, ou on voulait absolument identifier ces groupes-là, qui auraient eu des points de vue, des propriétés sociales, des propriétés politiques, des propriétés scientifiques, de conception autour de... et qui auraient défendu des conceptions différentes à cause de ces propriétés-là. On n'y est pas arrivé, peut-être qu'on s'est mal pris, mais je pense que ça m'a donné à réfléchir. Le travail d'Hélène sur les géographes et le climat donne aussi à réfléchir. Ensuite, donc je ne vais pas revenir là-dedans, mais à mon avis, il y a quelque chose à faire là. Peut-être que ça a été fait, que je n'ai pas trouvé, mais sur les STS, c'est leur manière de concevoir les controverses et de regarder les controverses. Le deuxième point, c'est peut-être que parce qu'on part du prémisse, on part de l'hypothèse qu'il y a des groupes polarisés, on ne prête pas suffisamment d'attention aux dispositifs sociaux qui vont, euh, qui vont conduire ou qui vont cadrer ou qui vont faire en sorte que une controverse devienne bipolaire, soit pour, prenne une face publique ou prenne un tour très extrêmement polarisé, avec un ou deux ou trois, mais avec un nombre limité de points de vue qui s'affrontent dans, les, dans des espaces publics, que ces espaces publics soient des espaces scientifiques, soient des espaces d'expertise, ou soient plus largement des espaces... je vais vous donner, pour vous donner une idée de ce que je veux dire, de ce que j'entends par là. Là, dans le papier d'Hélène, on voit des gens qui sont exclus, finalement, et Hélène a décrit la raison de leur point de vue, mais qui sont exclus des dispositifs globaux de gestion du climat, et elle l'explique par les propriétés de ces géographes. Mais peut-être aussi qu'on peut penser ou imaginer, regarder du point de vue de ce système global de prise en charge d'expertise du climat, qu'est-ce qui, dans ces dispositifs-là, fait qu'on exclut tout un ensemble de scientifiques et pas simplement de scientifiques ou d'experts qui auraient certaines propriétés. Mais plus, je voudrais, en allant un peu plus loin, je pense à un travail en cours qui est mené par quelqu'un qui s'appelle Laura Maxime et puis avec des collègues hollandais, qui est sur l'incertitude, qui est une enquête sur comment est-ce que des experts qui participent à des comités européens et français sur le bisphénol A, donc c'est tout petit, comment est-ce qu'ils conçoivent l'incertitude. Là, les avis de ces comités d'expertise, donc à l'EFSA ou à l'ANSES, sont des avis qui sont finalement qui sont consensuels, qui présentent une seule opinion de tous ces gens-là. Si elle, en les prenant individuellement, avec tout un système d'enquête et de questions assez précises, elle a pu montrer qu'il y avait une très très grande, ils ont pu montrer, puisqu'ils sont à plusieurs, qu'il y avait une très très grande variabilité, à la fois dans où était le point d'incertitude sur ces questions de faible dose, perturbateurs endocriniens, bisphénol, etc., et aussi sur les points qu'il fallait regarder, sur les points et aussi sur le type d'importance qu'il fallait accorder à chaque point dans l'explication des incertitudes sur les modèles faible dose. À la fin, tous ces gens-là arrivent quand même à une opinion, à un avis qui apparaît complètement uniforme, et c'est pas simplement, alors qu'il y a une très très grande variabilité quand on les prend un par un. Quand c'est le processus d'expertise permet d'expliquer ça, et bien qu'il y ait des possibilités d'opinion minoritaire, etc., c'est tellement compliqué que les experts ne les utilisent pas et acceptent des formes de compromis, ou alors ils quittent les comités d'expertise. Mais on arrive, alors c'est sur un tout petit exemple, mais quand on a différents, on peut imaginer dans, dans tous ces dispositifs, que ce soit d'expertise ou plus largement de décision politique, même de travail scientifique, tous ces dispositifs, on peut les regarder aussi comment ils gomment, ils vont gommer, et finalement, toutes les aspérités, les divergences de point de vue, les différences de positionnement, et je pense que ce type d'analyse-là, finalement, les STS ne l'ont pas suffisamment fait. Le papier d'Hélène à réfléchir de ce point de vue-là. Aussi, finalement, ce qu'invite ce à quoi invite le papier d'Hélène, c'est de se dire, de se dire qu'il y a peut-être dans ces controverses deux faces. Quelles sont deux faces? La première, qui est une face que j'appellerais publique, et celle à laquelle on est le plus naturellement attiré, dans lesquelles il y a des groupes plus ou moins bien identifiés, que l'on peut regarder, que l'on peut arriver à caractériser. Et puis, il y a peut-être une deuxième face, et c'est celle à laquelle commence à s'intéresser Hélène ou d'autres personnes commencent à s'intéresser. Ça ne veut pas dire qu'elles s'excluent l'une l'autre, mais qu'elles sont complémentaires, qu'elles coexistent, peut-être qu'elles se superposent. Et cette deuxième face serait celle où, justement, il y aurait une pluralité de points de vue, même dans des communautés apparemment homogènes, qui s'appelleraient géographes, dans mon cas, qui s'appelleraient toxicologues ou épidémiologistes, etc., et qui, de fait, pour des tas de raisons, de type de formation, de type d'affiliation institutionnelle, nationale, et de tradition, etc., etc., d'intérêt politique aussi, enfin qui pourrait être de l'ordre des cultures épistémiques ou pas, vont développer un faisceau beaucoup plus complexe et beaucoup plus large de manière de regarder le même problème, et ce faisceau de manière beaucoup plus large est beaucoup plus difficile à saisir et à rendre compte, et a malgré tout un effet participent quand même de la construction de ces, à la fois des connaissances, mais aussi des modes d'appréhension et des modes de construction des controverses dans leur exclusion même. Donc ce serait pour moi, cette face-là est d'autant plus, compliquée à saisir, mais c'est quand même une réalité, peut-être une réalité dont, que l'on ne regarde pas assez quand on fait ces études de controverses. Et une des raisons pour lesquelles on ne les regarde pas assez, c'est, je pense, la conformation théorique avec, ou la conformation de formation avec laquelle on arrive quand on est formé en STS. Mais une autre, c'est aussi, une autre raison, c'est que ça veut dire développer de nouveaux outils, de nouvelles approches. Les outils que l'on a développés dans l'étude de controverse sont des outils qui sont pour identifier des groupes, qui sont pour identifier des points de vue, les caractériser, et qui excluent tout ce qui est en forme d'aspérité. Typiquement, le travail de Christophe Bonneuil, que je trouve très bon, ce n'est pas le problème, mais le type d'outils qu'il a mis en œuvre, ou quand on cartographie des controverses, on vont de facto, moi j'ai pratiqué un petit peu aussi, de facto on exclut tout un ensemble de choses, comme quand on manipule dans un laboratoire, on fait des échanges, tout ce qui ne convient pas, on le vire, pour arriver à quelque chose de joli, qui marche bien, et comme dans un laboratoire. Ça a une valeur heuristique, ça permet de comprendre tout un ensemble de choses, mais en même temps, ça exclut, ça limite, ça crée des angles morts, comme le dit Hélène, pour ces géographes. Si on veut étudier cette seconde phase, ce qui serait cette autre face des controverses, il faut développer de nouveaux types d'outils, à la fois d'enquête, ou de se réapproprier autrement certains types d'enquête, et il faut trouver d'autres narratives, que les narratives qui sont ceux classiques des formes de récits, des controverses avec des groupes opposés que l'on peut identifier, auxquels on va donner des propriétés, etc. C'est peut-être juste un dernier point, parce que sur culture épistémique et politique, moi, ce qui me frappe dans les travaux, et peut-être je ne connais pas très bien les travaux sur le climat, mais tous les travaux, là, pour le coup, que je maîtrise bien sur le global chemical regimes, c'est qu'on peut faire des tas de publications, des tas d'analyses, des tas de travaux qui vont rentrer, prendre en compte les cultures épistémiques, les affiliations, ce qu'on va appeler dans la littérature politiste anglo-saxonne, les leakages, les corporations, etc., etc. Tout un ensemble d'analyses qui sont de type sociopolitique, scientifique, etc. Mais au final, l'échec ou la réussite de quelque chose, c'est souvent lié à une décision des États-Unis qui va dire non à telle ou telle chose, qui va dire... toutes ces belles analyses qui fonctionnent sur tout un ensemble de finalement, et qui vont montrer, voilà, on peut aller dans cette voie, on peut faire telle ou telle chose, on a des telles ou telles améliorations parce qu'il y a tel ou tel dispositif qui fonctionne. Une parole du gouvernement américain et tout est arrêté. C'est finalement politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces analyses, mais revenir peut-être quelquefois à des choses de ce type-là ramène à une réalité politique aussi un peu massive.
Thank you very much for this for the presentation, for the talk. We will now take questions. We're behind schedule, so we will take a few questions. Who wants to begin?
Oui, Pierre Matarasso, donc. Je ne comprends pas très bien une chose, Hélène. Comment se fait-il que tu n'évoques pas les rapports entre la géographie et la géologie? Et c'est certainement une des choses les plus fondamentales, parce qu'il n'y a pas de géographie sans géologie, il n'y a pas de géologie sans géographie. C'est-à-dire que ce sont deux disciplines qui sont extrêmement apparentées, elles traitent de l'espace et du sol, toutes les deux. Et donc, une des raisons probablement pour lesquelles la Société de géographie a donné cette récompense à Allègre, c'est parce que ces disciplines sont très proches, c'est parce qu'il y a eu des passages entre elles en général.
Pour répondre tout de suite, j'ai rencontré des géographes qui s'intéressent à l'environnement et au climat, et quelques autres plus généralistes. J'ai pas rencontré de comme je vous ai dit, c'est extrêmement morcelé. J'ai pas rencontré de géographes, peut-être géomorphes. J'ai cherché d'ailleurs, mais j'ai pas pu avoir rendez-vous. Géomorphologistes ou autres qui sont plus proches de la géologie. Cela dit, moi, on m'a très peu évoqué la géologie dans tous mes entretiens et dans mes lectures. Et l'histoire de la géographie que j'ai pu regarder, je me suis évidemment orientée plus sur les rapports entre hommes et environnement, mais je dois dire que je n'ai pas tellement vu, dans ce que j'ai lu, encore une fois, c'est exploratoire, ce rôle considérable de la géologie. Quant au président, bon, ce que je puis savoir, c'est qu'il y avait aussi des affiliations politiques et des amitiés. C'est des choses très, très, très individuelles, les raisons pour lesquelles ce prix a été remis, pour ce que j'en sais. Enfin, je n'ai pas creusé plus que ça, mais il me semble que c'est ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire qu'en gros, Pitt est copain d'Allègre, quoi. Enfin, quelque chose de ce genre, et puis des raisons politiques aussi. Enfin, bon, peu importe. Moi, je ne m'intéresse pas forcément énormément à ces questions très personnelles, mais en gros, ça ressort de ce type de relation-là.
One message before we go to the next question, one message from the translator. So everybody has to speak more into the microphones and, if possible, slower. A little bit, especially.
Oui, je vais rester en français puisque c'est la langue qui a servi à l'exposé. S'agissant des géographes, il y a quand même ce qui me paraît être, mais je n'ai pas de données précises, mais ce qu'on entend dire par les géographes eux-mêmes, c'est qu'en fait, ils ont quand même un rôle de formation de beaucoup des cadres qui sont ensuite dans les services environnementaux, des régions, des départements, qui est très important. En fait, il y a beaucoup plus de géographes ou de gens formés par la géographie dans tous ces services que de physiciens ou de climatologues. Est-ce que, au vu des interviews que tu as pu faire, ça a un impact sur la manière dont ces services vont se saisir de ces problèmes?
Oui, alors on m'a absolument mentionné ce fait très important, ce rôle considérable des géographes dans la formation à la fois des professeurs, mais aussi des cadres des collectivités territoriales et autres. Moi, on m'a dit... Alors, il y a deux choses. D'une part, en ce qui concerne la formation, le groupe des climato-réservés, pour dire ça, a une grande influence sur la formation, par exemple, des professeurs. Mais si on regarde leurs ouvrages sur le développement durable, c'est quelque chose d'assez mesuré et qui sont en fait assez pluralistes. Enfin, il y a des... Donc, bon. Et d'autre part, donc, ils n'ont pas... Mais effectivement, il y a cette composante un peu optimiste, si on considère ça comme... Bon. En ce qui concerne leur rôle vis-à-vis des cadres des collectivités territoriales, tout ce que j'ai pu savoir, c'est qu'il y avait une très grande sensibilisation aux questions d'environnement en ce moment, aujourd'hui, et qu'il y avait des tas de cours donnés à ce sujet. Bon, maintenant, j'en sais pas tellement plus, mais c'est vrai que les géographes ont un grand rôle. Je ne suis pas suffisamment creusée le contenu de l'enseignement, mais je sais que les questions environnementales sont extrêmement, depuis quelques années, très présentes dans la formation de ces cadres. Il faudrait effectivement creuser ces questions d'enseignement et le rôle des formations aux différentes questions environnementales qui changent beaucoup en France depuis quelques années. Et ça, je pense que ça serait un sujet assez intéressant à creuser.